Bonjour et bienvenue à Causons, le podcast hebdomadaire de la revue Causeur. Je m'appelle Jérémy Stubbs et je suis là d'abord aujourd'hui avec Martin Pimentel. Bonjour Martin.
Bonjour Jérémy.
Eh bien Martin, autorité, 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 c'est le mot sur les lèvres de tout le monde. Ce mot est véritablement présent partout cette semaine. Comment interpréter le sens de cet usage ?
Oui, vous l'avez vous aussi remarqué, Jérémy. Sursaut d'autorité, choc d'autorité, le Premier ministre et les éditorialistes n'avaient que cette formule à la bouche cette semaine. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. On le sait, c'est le nouveau mantra de Gabriel Attal face aux jeunes sauvageons. Le dessin satirique de Rice en couverture du journal libertaire de gauche Charlie Hebdo s'en est amusé cette semaine. On y voit le Premier ministre sur les genoux d'un président Macron muni d'un martinet qui donne la fessée à un jeune fumant un joint.
Oui, Gabriel Attal semble raffolé de son rôle d'instituteur un peu sévère qui plaît tant aux citoyens français.
Oui, même si certains n'y voient que des postures ou de l'esbrouf. En réalité, Gabriel Attal n'est bien sûr pas du tout ce professeur un peu sévère qu'il prétend incarner. Non, Gabriel Attal, c'est surtout le bon élève d'Emmanuel Macron, lequel, souvenez-vous, proclamait « de l'ordre, de l'ordre, de l'ordre » à la télévision après les émeutes survenues l'année dernière suite à la mort du jeune Naël. Lors de ses vœux de bonne année, le président avait de nouveau voulu montrer cette image d'un président protecteur qui ne laisserait plus rien passer. Dans son allocution, il se félicitait de voir les budgets militaires de la France doubler en une décennie, mais il précisait tout de suite après que les effectifs de police ou de gendarmerie étaient en augmentation et que, je le cite, « Nous continuerons de rétablir l'autorité partout où elle manque face aux incivilités et à la délinquance. » Donc la présidence ne veut surtout pas que l'opinion pense que la France se réarme pour affronter les dangers du monde extérieur, mais qu'il ne fait rien à l'intérieur du pays où la situation sécuritaire n'est pas très reluisante. Il disait d'ailleurs, un peu plus tard dans la même intervention, lors des vœux de bonne année, je cite « Nous serons déterminés à agir pour l'école, l'enfance et l'éducation afin de rétablir le niveau de nos élèves, l'autorité de nos professeurs, la force de notre enseignement laïque et républicain. Après le réarmement économique, le réarmement de l'État et de nos services publics, il nous faudra ainsi engager notre réarmement civique. » La France, c'est une culture, une histoire, une langue, des valeurs universelles qui s'apprennent dès le plus jeune âge à chaque génération. Tout le monde est d'accord avec ça. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a du pain sur la planche. Et un petit rappel de faits divers récents, plus ou moins sanglants et impliquant des jeunes, est accablant. Alors bien sûr, Jérémy, je dis faits divers, mais beaucoup parmi les opposants d'Emmanuel Macron ou parmi nos lecteurs, bien sûr, y voient plus que de simples faits divers, mais des faits de société. C'est la démonstration que ceux qui alertaient depuis des années sur l'ensauvagement de la société française avaient raison. Alors il y a eu les violences après la mort de Naël, bien sûr, je l'ai dit, ça a duré quand même 10 jours l'été dernier, mais depuis... Il y a eu plein d'affaires. Il y a les affaires de harcèlement à la rentrée qui se sont multipliées dans les écoles, affaires qui sont amplifiées par les réseaux sociaux et ces nouvelles technologies dont on ne parvient pas à sevrer la jeunesse. Ces derniers jours, vous avez vu que la jeune Mila réapparaît de son côté sur nos écrans et dans les journaux avec des constats amers quant à l'évolution de l'école, l'application de la laïcité, et cet islamisme qui la menace de mort et qui continue de prospérer. Ensuite, Il y a eu l'affaire de Crépole, où on a vu une meute de jeunes de Romans-sur-Isère qui est venue en découdre avec des couteaux à un bal de village, qui s'est terminé dans le sang, et on le sait bien, la mort du jeune Thomas Perotti, 16 ans. Début avril, il y a eu le passage à tabac de Samara à Montpellier. L'adolescente de 13 ans a été frappée devant son collège. On vient d'apprendre qu'elle va reprendre les cours, enfin elle a repris les cours lundi, mais à distance. Et selon le rectorat, les élèves impliqués dans son agression doivent eux passer en conseil de discipline. Je rappelle que Samara avait été tapée et envoyée dans le coma. Son tort, c'était vivre à l'européenne et être coquette. À Viry-Châtillon, on a eu l'affaire du meurtre de Chemseddine, un jeune de 15 ans, dont les tueurs reprochaient sa correspondance avec une de leurs sœurs sur des sujets relatifs à la sexualité. Enfin, il y a eu cette affaire retentissante du proviseur parisien du lycée Maurice Ravel. Ce proviseur a annoncé partir en retraite plus tôt que prévu pour convenance personnelle. En réalité, depuis que celui-ci a eu une altercation avec des élèves voilés dans son établissement, il s'estimait menacé. Le Premier ministre a promis de déposer plainte contre la jeune voilée affabulatrice qui a déclenché toute cette histoire.
Effectivement, Martin, ça fait beaucoup d'affaires sur lesquelles les Français ne peuvent que s'interroger. Bon, mais face à toutes ces affaires inquiétantes, il me semble que Gabriel Attal tient le bon discours, non ?
Alors que l'opinion s'inquiète à juste titre de l'évolution que prend la jeunesse, Gabriel Attal a déroulé cette semaine ce que ses communicants appellent une séquence autorité. Et c'est donc un élève appliqué, comme je vous ai dit, même si des bruits de couloir indiquent ces derniers jours que l'Élysée est en fait un peu agacée et aurait hâte qu'il s'investisse à présent plus tôt dans la campagne pour les européennes de Valérie Ayer. Bon, la séquence autorité de Gabriel Attal s'est déroulée en trois étapes. Il y a d'abord eu, jeudi 18 avril, un discours à Viry-Châtillon, où le mot « autorité » a été prononcé pas moins de 32 fois en une demi-heure. « Ma boussole, c'est l'impunité zéro », a notamment déclaré Attal, qui a envisagé des travaux d'intérêt général pour les parents défaillants, et promis de réfléchir quant à l'évolution de la politique pénale des mineurs. Il nous assure, je cite, « Je vous le dis, la culture de l'excuse, c'est fini ». Après ce discours général, le Premier ministre a adressé le 19 avril, donc le lendemain, un message directement aux jeunes. Dans une vidéo TikTok, il a annoncé que les collégiens en zone d'éducation prioritaire pourront être accueillis dans leurs établissements de 8h à 18h. Plus de 4 millions de vues, c'est un joli succès en ligne. Enfin, à Nice, lundi 22 avril, le Premier ministre s'est déplacé dans un internat pour collégiens décrocheurs. On l'a vu se montrer un peu sévère, quoique bienveillant, face à des jeunes qui affirmaient crânement devant les caméras qu'ils ne voulaient pas être là ou qu'ils ne connaissaient pas l'hymne national.
À droite, certains dénoncent inévitablement des postures politiques. Et bien sûr, à gauche, on n'aime pas du tout cette approche.
Oui, Gabriel Attal est très critiqué. Évidemment, pour toute une gauche qui refuse souvent de voir le réel, cette fièvre autour de l'autorité, cela ne passe pas du tout. Alors, il suffit de feuilleter cette semaine le quotidien français de référence Le Monde pour s'en convaincre. On va regarder ça dans un instant. Mais notez qu'à droite, ce n'est pas beaucoup plus simple. Dans Le Point, l'hebdomadaire Le Point, Pierre-Henri Tavoyot constate qu'après l'ivresse libertaire survient la gueule de bois. Je cite le philosophe. « Parents, enseignants, médecins, politiques, tous voient leur autorité contestée. Hier fondée sur la tradition ou la religion, celle-ci se cherche de nouvelles bases. » Mais il faut bien constater qu'en débat, je l'ai vu cette semaine sur France 5 face à un plateau majoritairement progressiste, le philosophe peinait à trouver des pistes de solutions concrètes et opérationnelles. Et bien sûr, je l'ai dit, les déconstructeurs de gauche sont donc toujours à la manœuvre. À Montpellier, par exemple, les enseignants du lycée de Samara sont en grève. On aurait donné une mauvaise image de leur établissement et de tout leur travail. Et dans les pages du Monde, la politique de Gabriel Attal est très loin de faire l'unanimité. Alors, morceau choisi de tribunes que j'ai vu passer cette semaine, par exemple, le sociologue Christian Mouana, il déplore, je cite, « une rengaine alimentant un discours anxiogène ». Il dit aussi « il est dommage de voir le gouvernement sombrer dans les mêmes travers que les pires idéologues fascinés par la punition des plus faibles ». Il y a aussi une historienne, Véronique Blanchard, alors elle va dans des grandes envolées, c'est en conférant aux jeunes liberté, égalité et in fine pouvoir d'agir que nous les rendrons maîtres de leur propre destin, artisans de la paix sociale dans un monde qu'ils estimeront plus juste et solidaire. Et elle dénonce bien sûr l'autoritarisme qui nuirait à l'émancipation de la jeunesse. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? David Puot, qui est anthropologue et qui, dans une tribune, donc toujours dans le Monde, hein, tout ça c'est dans le Monde, il défendait les éducateurs dans les quartiers qui n'auraient jamais, toujours pas assez de moyens. Et donc il dit « Force est de constater malheureusement que la montée de l'extrême droite et les enjeux électoraux à court et moyen terme ne laissent guère de place à la narration des résultats pourtant probants des actions de prévention » de ces fameux éducateurs. Bon, Gabriel Attal, il a un mérite, c'est qu'il dit les choses. Il a même osé parler de charia sur BFM TV, comme l'observe ce matin l'excellent Jean-Baptiste Roch dans un texte publié sur Causeur. Les tabous sémantiques tombent les uns après des autres, à nous de nous en emparer. Mais Gabriel Attal a-t-il réellement les moyens de ses ambitions? On peut très légitimement en douter.
Mais pourquoi donc ?
Alors, Gabriel Attal surjoue les pères fouettards devant les gamins, c'est très bien, mais il n'a pas choisi ses ministres. C'est Emmanuel Macron. Et le « en même temps macroniste », cela veut en réalité dire « nulle part ». Il est par exemple amusant de noter que Nicole Belloubet, que les questions du décrochage scolaire doivent pourtant concerner un petit peu, elle n'était pas présente à Nice lors de la séquence gouvernementale à l'internat. Déjà qu'elle n'était pas d'accord avec Gabriel Attal sur les classes de niveau, qui ont été finalement rebaptisées « groupes de besoins », cette absence laisse songeur. Quant au ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui lui était bien présent à Nice aux côtés de Gabriel Attal, je vais vous lire un petit passage de son intervention. « Ces jeunes vont recevoir des enseignements, davantage de culture, de citoyenneté, de valeurs de la République. » Ils vont faire du sport, ils vont savoir ce que c'est que de vivre ensemble. Et on va les aider pour cela. C'est beau comme du Christiane Taubira. Donc les Français qui ont une sensibilité de droite et qui peut-être se réjouissaient de la fermeté prônée par Gabriel Attal, ils peuvent un petit peu déchanter. Et surtout se rappeler que lui et son ministre de la justice viennent de la gauche. Et que la déconstruction de l'autorité à l'école, c'est quand même l'une des pires inventions de cette dernière.
On est bien d'accord là-dessus. Merci Martin. Et je viens d'être rejoint par Gil Mehely. Gil, le Congrès américain vient finalement de voter ce package de milliards de dollars. Quelles sont les conclusions qu'on peut tirer de toutes ces séquences et du vote ?
Bonjour, Jérémy. Eh bien, c'est une décision très importante. D'abord, on sait que cette loi qui était poussée par la Maison-Blanche a été retardée par une sorte de guérilla parlementaire de la majorité républicaine dans la Chambre de députés, donc la Chambre basse. Et c'était une grande surprise de voir que le président de Parlement américain a eu un changement de cœur et que ce qui a été impossible pendant des mois est devenu non seulement possible, mais qui est devenu une réalité en quelques jours. Donc, avant de commenter ces changements intéressants, d'abord sur les faits, donc on est là face à une loi qui permet de dépenser plus de 90 milliards de dollars, mais il y a un grand mais, ces 90 milliards d'euros vont vers trois destinataires, voire même beaucoup plus, mais trois groupes de destinataires. Le premier, c'est ce qu'on appelle le package pour Taïwan, qui ne fait pas uniquement pour Taïwan, mais pour plusieurs alliés et partenaires des États-Unis dans la région. Donc ça, c'est à peu près 8 milliards de dollars. Donc il n'y aura pas 8 milliards de dollars d'armement qui vont partir demain vers le Taïwan. C'est beaucoup, beaucoup moins. Et très souvent, ce sont déjà des armes qui ont été livrées et qui maintenant, on nettoie la comptabilité. Après, il y a 26 milliards de dollars qui vont vers Israël et Gaza. Donc 9 milliards pour l'aide humanitaire pour Gaza et 17 milliards pour Israël. Là aussi, beaucoup de fonds vont aller pour mettre les livres de comptabilité dans l'ordre. Donc évidemment que c'est important, évidemment que ça permet de continuer. Il s'agit essentiellement de renouveler les stocks de munitions, les missiles d'interception qui étaient en très grande demande ces derniers mois, et quelques systèmes d'armement qui vont arriver dans plusieurs mois, voire quelques années, quand on parle des hélicoptères, des avions, etc. Enfin, pour ce qui concerne l'Ukraine, là aussi, on parle des chiffres énormes. Après, quand on regarde dans les détails, il y a beaucoup d'argent qui va dépenser pour renouveler les stocks aux États-Unis. C'est-à-dire que si les États-Unis livraient, admettons, 50 000 obus d'artillerie 155 mm l'année dernière, maintenant une partie de l'argent va être dépensée pour que l'armée américaine puisse acheter 50 000 pour remettre ses propres stocks. Et c'est un ordre, et c'est considéré comme faisant partie de l'aide à l'Ukraine, parce qu'il y avait une prête de 50 000 obus qui maintenant va être remboursée. Et donc, malgré tout cela, l'importance est très importante, parce que les États-Unis semblaient être tentés par l'isolationnisme, tentant de l'isolation, pardon, tentationnaliste, et ça a eu des répercussions sur évidemment l'Iran, sur la Chine, sur les États-Unis, sur la Russie. Et pourquoi ces changements? Donc probablement les républicains qui étaient farouchement contre étaient briefés par les services, différents services de renseignement américains, et qui ont suffisamment d'éléments pour le persuader que Poutine n'envisage pas de s'arrêter avec l'Ukraine, et donc que soutenir l'Ukraine est un intérêt américain très important, si justement les États-Unis ne vont pas se voir de nouveau aspirés vers l'Europe. Il faut créer une situation où l'Europe peut se débrouiller essentiellement avec de l'argent et de matériel américain sans trop de troupes. Donc c'est probablement ces gens de brief qui ont fait que certains républicains ont changé d'avis. La dernière chose que j'aimerais souligner là-dessus, c'est que pour tous ceux qui pensaient que l'élection, une élection de Trump en novembre, va, à partir de janvier 2025, quand il va réaménager dans la Maison Blanche, va complètement changer la politique et la stratégie américaine. On voit que ce n'est pas si simple que ça, et que des gens qui semblaient, il y a un mois encore, farouchement opposés à l'aide à l'Ukraine, ont changé d'avis assez rapidement. Donc, pour ces raisons-là, surtout pour raisons stratégiques et politiques, c'est une décision très importante.
Et parlons maintenant de l'Europe elle-même. Vous pensez que l'Europe se trouve face à un dilemme?
Oui, et c'est le dilemme qui nous pend au nez depuis très longtemps. L'Europe, l'Union européenne, ou les projets politiques européens, a deux dimensions. Il y a une dimension, je dirais, plutôt rationnelle. Ce sera peut-être mieux de faire certaines choses ensemble. C'est plus efficace, on va être plus fort, il y a un certain nombre d'arguments pour un marché unique, on peut comprendre que produire des chars ensemble ou créer un marché ou un réseau d'électricité plutôt intégré et uni, ça pourrait avoir des avantages à la fois pour la fiabilité et pour la dimension économique de ces projets. Le problème, c'est que le politique n'est pas un domaine qui est à 100% rationnel. Les nations ne sont pas des associations rationnelles créées par des gens qui pensaient que certaines frontières et certaines compositions de populations, c'est la meilleure solution pour faire face aux défis du monde. Ce sont les créations de l'histoire, ce sont des phénomènes qui sont plutôt anthropologiques. L'exemple classique, c'est de comparer la partie nord du continent américain aux parties sud. Pourquoi on a des États-Unis d'Amérique au nord de Rio Grande? Et on a des dizaines d'entités au sud de Rio Grande. Alors les réponses sont multiples, mais la réponse est une, c'est que si bien évidemment on voit tous les avantages de l'union, du fédéralisme au nord, et tous les problèmes que souffre le sud, probablement par le fait que le sud n'est pas uni, ce sera une folie d'imposer l'Union a des dizaines de groupes qui, à l'évidence, ont une logique anthropologique des histoires qui les empêche de pousser la coopération vers des horizons qu'ils souhaitent pas, qu'ils ne peuvent pas peut-être attendre. Et l'Europe est un excellent exemple. On continue à ignorer le fait que le premier, le père fondateur de l'Union européenne, de l'Europe politique des années 40-50, et je ne parle pas uniquement de leur volonté de ne plus vivre des guerres comme 14-18 ou la Seconde Guerre mondiale, ils pensaient vraiment qu'on peut fabriquer une nation. L'idée était, ils avaient une vision, disons, un peu légère de la dimension historico-anthropologique des nations, à quel point ces objets, même si ces objets échappent à la rationalité, c'est difficile d'expliquer ce que c'est qu'une nation, on sait juste que ces choses-là arrivent à la fin du XVIIIe et milieu du XXe siècle, tout le monde est organisé en état-nation presque, et là ça ne marche pas. Ce sont des gens des conflits et des problèmes, on voit surtout en Afrique. Donc, on ne peut pas expliquer, ce n'est pas une idéologie, c'est un phénomène probablement anthropologique, lié à un certain niveau de développement, etc. mais cet objet-là est toujours ignoré parce que difficile à définir. Et donc non seulement cet objet a été mal compris, on pensait qu'il suffit d'ouvrir les frontières et de faire Erasmus pour fabriquer une nation. Parce qu'on a compris la recette. On a lu quelques livres sur les nations au XIXe siècle, et hop, on peut essayer à la maison. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Les historiens ne donnent jamais des recettes. Le fait qu'on comprend qu'il y a un élément de genre, que les sexes biologiques ne définissent pas, disons, les sexes sociaux, qu'il n'y a rien de masculin ou de féminin dans une robe ou dans une cravate, pour prendre un exemple simple, ça ne veut pas dire que si on dit ça, on sait fabriquer la chose. On sait juste proposer une hypothèse qui explique beaucoup de choses. Ce n'est pas une recette de fabrication. Et c'est ça où les choses deviennent compliquées. Donc on peut essayer de comprendre le phénomène national, les sentiments nationaux, on peut écrire là-dessus, mais essayer de les fabriquer, ça ne marche pas. Et c'est ça le problème de l'Europe. Tout a été créé, fondé et dirigé comme si il y a une recette pour fabriquer une nation européenne supranationale. C'est-à-dire que les gens vont laisser tomber leur nation pour adhérer à quelque chose de nouveau. Et c'est exactement ce qui manque à l'Europe, comme ça manque à l'Afrique. On peut difficilement voir des États-Unis d'Afrique, ce qui manque à l'Amérique latine et ce qui manque à la France, à l'Europe, pardon. Et donc, la grande question maintenant n'est pas comment mieux écrire les règles de la copropriété, mais comment faire des choses en prenant en compte, en tenant en compte cet élément majeur qui est les liens entre les sentiments nationaux, les nations et les États.
Merci Gil pour cette analyse qui me semble très très juste. Et ce qui est sûr, c'est que les européistes, s'ils comptent sur les élections européennes au mois de juin pour apporter une solution, ils vont être déçus. Eh bien, merci à tous nos auditeurs et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Causons, le podcast hebdomadaire de la revue Causeur.